marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
C'est pas de ma faute si j'ai 65 ans, j'ai mis assez de temps pour les avoir.
La protection sociale, que faire de nos vieux ?
Notre pays a été profondément meurtri par les conséquences de la canicule. Cet événement a révélé combien nous avons un devoir d'action vis-à-vis des personnes âgées en France et vis-à-vis de leur situation personnelle et de leurs relations sociales. Ce devoir d'action nous engage.
Nous avons besoin de contributions qui fassent appel à la solidarité et à la fraternité. Nous sommes là face à un problème de société. Nous devons nous engager par une forte mobilisation de fraternité. Nous voulons donc créer cette caisse nationale, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
On aura reconnu le style, à vrai dire, inimitable de Jean-Pierre Raffarin. En 1901, on a érigé à Paris, dans le 13e arrondissement, une statue à l'enfant abandonné. Au milieu du 19e, c'était par dizaines de milliers qu'on comptait les abandons chaque année. Y a-t-il, quelque part, un monument érigé au vieillard abandonné ? Certes, en 1905, au nom du devoir d'assistance, l'État organise les hospices. La loi sur les retraites ouvrières et paysannes, qui suit de peu en 1910, expérimente, elle, le principe de l'assurance. Elle concerne trop peu de personnes et les travailleurs pauvres vont se retrouver dirigés en plus grand nombre que prévu vers les hospices qui sont très vite entourés d'une représentation noire. « Misère des vieux », titrent les journaux. L'État, par nature, cherche des économies. Il traque les déperditions d'argent public, exige des contrôles de la fraude. Ces jours derniers encore, Bercy demande qu'on cible mieux les aides sur des publics plus restreints afin de garantir, je cite, la soutenabilité du système dans un contexte de vieillissement prolongé des Français, lequel est décrit de manière noire lui aussi. La population active dans son ensemble est sollicitée. Donc en 2003, on entendait le Premier ministre de l'époque qui lançait une journée de travail de solidarité. On nous en promet une seconde. La pression s'exerce aussi sur les familles. Après la canicule de 2003, le constat fut un peu rapidement fait de leurs carences et l'État se présenta de nouveau en père fouettard. Déclin des solidarités familiales, vraiment, alors que 15% de la population active se retrouve de fait dans le statut d'aidant. Explosion des dépendances, vraiment, alors que l'entrée dans l'âge des grandes incapacités se fait de plus en plus tard. L'histoire des personnes âgées, on va le voir, balaye beaucoup d'idées reçues.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Bonjour à vous, monsieur Capuano. Vincent Capuano, vous venez de publier... Christophe Capuano, mais justement, j'avais mal écrit, vous voyez, j'hésitais, l'auditeur l'a senti, c'est une première faute de sénilité. Christophe Capuano, vous avez publié aux presses de Sciences Po un livre très instructif qui porte sur la période qui va de 1880, les premières lois sociales de la Troisième République à nos jours, fondées sur quel travail d'archives ? Il y a des vieillards abandonnés, mais où sont les vieillards dans les archives ?
Bonjour Jean Lebrun, merci de cette invitation.
Vous auriez pu m'appeler Albert, peut-être, par exemple. On va continuer.
Il y a des archives lorsqu'on les cherche sur cette question. Il y a quatre grandes voies pour les trouver. C'est l'assistance publique de Paris, par exemple, pour les hospices, les EHPAD. Ce sont les archives publiques, les archives nationales, les archives départementales, les archives municipales, où on trouve par exemple les dossiers individuels des premiers assistés de la loi de 1905. Ce sont aussi les archives d'associations d'aide aux personnes âgées, comme l'association d'aide aux personnes âgées de l'Ain, ou bien les archives de la Fondation nationale de la gérontologie, malheureusement fermé aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a des histoires qui vous ont sauté à la gorge quand vous avez ouvert l'Elias ?
Oui, tout à fait. Cette histoire de parents âgés dans les années 1930 qui disent qu'ils sont désolés et doivent rentrer à l'hospice parce qu'ils ne peuvent pas être, ils ne veulent pas être un poids pour leurs enfants, ou des cas encore plus dramatiques à la fin du 19e siècle. Un vieux monsieur qui dit qu'il préfère se suicider plutôt qu'être une charge pour son fils.
Il y a une question qui court tout au long de votre ouvrage, une question de bon sens, et qu'au fond, on ne se pose plus tellement en France, parce qu'on a séparé d'un côté les personnes atteintes de ce qu'on appelle aujourd'hui le handicap, des personnes âgées, atteintes par ce qu'on appelle aujourd'hui la dépendance. À de nombreuses reprises, d'autres voies que la dissociation entre les unes et les autres ont été possibles. La dissociation règne maintenant.
Oui, la dissociation règne, alors que pendant des décennies, c'était une approche combinée, une approche où on ne faisait pas la différence entre personnes âgées dépendantes et personnes handicapées. On avait une même approche et des dispositifs communs pour ces populations. De 1930 à 1997, l'approche était commune. On les a assimilés avec des dispositifs identiques. Et lorsque les dispositifs ont été améliorés avec une politique pour les personnes en situation de handicap à partir de 1975, les personnes âgées dépendantes en ont bénéficié au même titre que les personnes handicapées.
On va revenir à l'origine de votre travail, au début des lois sociales de la Troisième République. Donc, la loi de 1905 sur les vieillards, c'est une loi qui suit le principe de l'assistance. La loi qui va suivre de 1910 sur les retraites des ouvriers et des paysans, elle commence à fonctionner sur le principe de l'assurance. Donc c'est très important, hein, la différenciation entre ces deux voies.
Bien sûr, la loi de 1905, elle est destinée à des populations qui sont sans ressources. Et là, d'abord, on a une approche qui amalgame les personnes considérées comme les bons pauvres. Les bons pauvres, c'est ceux qui ne peuvent plus travailler. Ce sont les infirmes, ce sont les incurables, ce sont les personnes âgées, et on décide que les personnes âgées de plus de 70 ans, à partir de 1908, peuvent automatiquement bénéficier de cette loi s'ils n'ont pas de ressources suffisantes. Et puis, il y a la loi de 1910, qui est une loi sur les retraites ouvrières et paysannes, qui est une loi fondée sur la compensation. On compense, c'est-à-dire que finalement, on épargne pour sa propre retraite.
Alors, vous insistez sur un thème récurrent jusqu'à aujourd'hui. On parlait de la note de la direction du budget de Bercy dans le chapeau il y a un instant, le souci de contrôle. Les médecins sont laxistes, les pauvres fraudent. Qu'il s'agisse du contrôle sur l'obtention de la retraite ou du contrôle pour l'entrée à l'hospice des indigents.
C'est une obsession parce que dès la mise en place des lois, notamment sur l'assistance, les réformateurs, les parlementaires sont obsédés par le coût que représente cette loi. Et comme cette loi va avoir plus de succès qu'attendu, eh bien, on va accuser les uns et les autres, comme vous l'avez dit, les experts médicaux, les municipalités accusées d'enregistrer trop d'assistés, ou bien les familles accusées de se décharger de leurs vieux auprès de l'assistance publique.
Alors, les hospices, dites-vous, ont eu plus de succès que prévu. Les hospices. Les sons qu'on va entendre sont relativement récents. Le premier est extrait du film de Gilles Grangier, Les vieux de la vieille. Le second de l'émission de Clara Candiani sur la radio nationale. Mais la représentation qui va être donnée dans ces archives, parce que nous aussi, nous avons des archives. Elle existe en fait depuis très très longtemps, depuis la fin du 19e, le début du 20e.
Les agouillettes ? Ben, mon poulot, c'est pas possible que tu vas t'enfermer là-dedans. Hé, Jean-Marie !
Ouais !
Viens voir ! T'as vu cet endroit ? Y va ! Oh, Baptiste, rentre pas là-dedans, Baptiste. Fais pas le couillon, regarde. Baptiste, rentre pas là-dedans. C'est le Cayenne des vieux, Baptiste.
Ce soir, l'année s'achève. J'ai envie de vous raconter ce que j'ai vu hier. Seulement, je vous préviens d'avance que ce n'était pas particulièrement gay. Enfin, tant pis. Vous allez voir. On m'avait demandé de participer à une distribution de colis dans un grand hospice de Paris, un hospice de vieillards. 2700 lits. Vous imaginez-vous ce que c'est ? Des salles qui se ressemblent toutes, et puis des files de lits où sont cloués des vieux hommes, des vieilles femmes depuis des mois, des années. Tous, ils savent qu'ils ne quitteront ce lit étroit que pour en retrouver un autre fait de quatre planches à peine plus étroit. Ils n'ont plus rien, ceux-là. Rien que les vêtements qu'ils portent, une table de nuit, un tiroir, quelquefois une petite valise, ça, ce sont les heureux de ce monde. Et puis il y a ceux qui ont pu conserver encore quelques photos. Ce sont les riches du dortoir. Ils les exposent sur leur lit, là où ils peuvent. Sur celui d'une femme aveugle de 88 ans, toute déjetée, toute courbée, toute ridée, j'ai vu le portrait d'une femme blonde, très belle, en robe de mariée, qui s'appuyait sur le bras de son jeune mari. Puis il y avait une autre photo où des enfants jouaient dans un jardin. J'ai demandé à la vieille aveugle ce qu'étaient ces photos. Alors il m'a répondu, la mariée, ben c'est moi, les enfants c'était les miens. Ils jouaient dans le jardin de notre maison. Maintenant mon mari est mort, mes enfants sont mariés, ils ne viennent plus jamais me voir. La maison est vendue, je n'ai personne pour me sortir, jamais une visite. Il y a 13 ans que je suis là, 13 ans à tourner autour de mon lit. Et je ne distingue plus rien, rien que le jour et puis un peu la nuit.
Vous ne citez pas Clara Candiani, mais vous citez Robert Fontenay, journaliste à l'Humanité. Avant la guerre, mêmes images, même émotion.
Oui, les observateurs, les extérieurs insistent sur ce regard très misérable de l'hospice, très noir. Les historiens aujourd'hui, en croisant différentes sources, tendent à nuancer cette vision. Et dès le 19e siècle, c'est un hospice qui a aussi des facettes plus agréables, avec certains espaces de sociabilité, des lieux de vie. Les situations sont très contrastées entre les hospices, notamment lorsque les hospices sont éloignés des villes, où là, effectivement, nous avons des situations où les personnes âgées sont coupées de toute vie sociale, s'ennuient et n'arrivent pas à s'intégrer au reste de la population. C'est une vision qu'il faut aborder dans une évolution. Les hospices se sont transformés tout au long du XXe siècle.
Le risque, c'est ce que dit d'ailleurs le Comité national consultatif d'éthique dans un avis très sévère qu'il vient de rendre sur les questions de la vieillesse, c'est l'éloignement de toute vie sociale et la ghettoisation. Tout au long de votre livre, Christophe Capuano, on voit toujours les mêmes acteurs, les acteurs publics, les collectivités locales, les municipalités, les conseils généraux, l'État délègue beaucoup, les acteurs privés, les congrégations, maintenant il y a le marché, et puis il y a ce thème, là encore, récurrent, celui de la famille. C'est dès les années d'avant-guerre, l'État est encore libéral, entre guillemets, qu'on fait recours aux familles, enfin qu'on imagine en tout cas un statut pour de tierces personnes qui pourraient s'occuper des vieillards.
Alors, on l'imagine à partir de 1930. C'est inspiré d'un système qui existe pour les invalides de la Première Guerre mondiale et on le pense comme un système pour éviter que des personnes dépendantes entrent à l'hospice, justement.
Toujours le contrôle financier.
Contrôle financier.
C'est-à-dire que bien avant la crise de l'État-providence, avant même l'apparition de l'État-providence, sous l'État encore libéral, l'histoire du politique doit se faire économiquement.
Tout à fait. Et ces dispositions vont être adoptées au moment même où éclate la crise économique. Ces effets de cette majoration en 1930 vont être largement compensés, malheureusement, par les effets de la crise. Et les vieux vont être touchés par la crise et vont entrer, pour des raisons encore socio-économiques, dans les hospices.
Alors, la situation des vieux économiquement faibles au lendemain de la guerre est absolument dramatique, parce qu'il y a la crise qu'il a fallu traverser pour eux, il y a la guerre et l'occupation qu'il a fallu traverser pour eux. On connaît des exemples de morts, de faim, et fort heureusement, s'installe donc l'État-providence avec une extension progressive de l'assurantiel et le maintien, évidemment, de l'assistanat. On va parler d'aide sociale à partir des années 1950. Il y a un progrès, là.
Il y a un progrès, mais tous les vieux n'en profitent pas immédiatement, parce qu'il faut avoir cotisé pour bénéficier de ces pensions de retraite. Et beaucoup de personnes âgées vont vivre une très grande pauvreté dans les années 1950. Imaginez, on crée en 1951 la journée des vieillards pour avoir quelques
béquilles.
En 1956, on va créer le minimum vieillesse et la vignette automobile qui devait au départ payer ce minimum vieillesse. En 1960, 48% des personnes âgées touchent le minimum vieillesse. En 2008, elles ne sont plus que 4%.
Quand même un décollage dans les années 1960. On vient maintenant aux années 1960. Une grande commission sous la présidence de Pierre Larocque réfléchit d'ailleurs à ces questions. Mais ce ne sont pas simplement les acteurs qui... Parfois, les mécanismes sont ceux, les représentations qui se transforment. Si je vous passe cette chanson de 1965 de Jean Ferrat, c'est qu'elle s'inscrit dans un film dont on parlera un peu plus longuement dans un instant. Après une vie incolore, pourrait-il y avoir une vieillesse verte ?
On se marie tôt à 20 ans et l'on n'attend pas des années pour faire 3 ou 4 enfants qui vous occupe vos journées. Entre les courses, la vaisselle, entre ménage et déjeuner, le monde peut battre de l'aile, on n'a pas le temps d'y penser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer.
Oui, il peut y avoir une vieillesse verte, répond le chef-d'œuvre de René Alliot, la vieille dame indigne, Madame Berthe, interprétée par Mademoiselle Sylvie, rassemble ses économies après la disparition de son mari, s'achète 1-2 chevaux. Et avec un groupe de jeunes bons vivants aux mœurs libres, elle promène tout ce beau monde et vit enfin librement.
Madame Berthe, toujours verte, et Rosalie, toujours jolie. Entrez, tout le monde est là.
Bonsoir.
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 Madame Berthe, Oussine, Madame Berthe.
Oh, formidable.
Ah, c'est une idée de Berthe.
Bravo,
ah,
bravo.
Alors, c'est fabriqué en Écosse.
Elle n'a pas l'air malheureuse du tout. Et pour tout dire, je la trouve même assez fringante. Mais je crois parce qu'elle est heureuse, tout simplement. C'est vrai, tu as raison. Heureux et simple d'esprit.
Elle n'est pas folle du tout, va. Hein. Non, c'est pas ça, elle est... Elle a changé, voilà.
Voir les choses, elle vécut successivement 2 vies. La première en tant que fille, femme et mère, et la seconde simplement en tant que Madame Berthe, personne seule, sans obligation, aux moyens modestes mais suffisants. La première vie dura environ 60 ans, la seconde pas plus de 18 mois. Elle avait savouré pleinement les longues années de servitude et les brèves années de liberté, et consommer le pain de la vie jusqu'aux dernières miettes.
En 1965, on ne concevait la vieillesse verte que courte, dans le cas de Madame Berthe, 18 mois. Et puis, alors, le temps s'allonge et va apparaître dans les représentations l'idée, au bout du troisième âge, quand commence le quatrième âge, je mets des guillemets, hein, de la vieillesse décrépite, symétrique de la vieillesse verte. Christophe Capuano.
Oui. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans les traités de médecine, dans les dictionnaires. On parle de ces deux vieillesses qui seraient parallèles. Ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a un allongement de la durée de vie en bonne santé qui va se développer tout au long du XXe siècle. Une vieillesse une vieillesse verte finalement qui va être prolongée. Jusque à l'orée de la soixantaine, 70 ans, 80 ans, à la fin du XXe siècle. Lorsque la commission Larocque, dont vous parliez tout à l'heure, se réunit à partir de 1960, elle va être obsédée par ces sexagénaires en forme. Il faut les réinscrire dans la société. Il faut leur donner des loisirs. Il faut les occuper. Sauf que elle oublie quelque peu qu'il y a aussi des personnes âgées qui vont être en perte d'autonomie, qui vont être dépendantes. Et pour ces populations-là, eh bien, on pense très peu de dispositifs adaptés. C'est une politique de la vieillesse qui est fondée sur l'âge. On réfléchit en termes de tranches d'âge, mais on ne réfléchit pas en termes de besoins liés à une progressive perte d'autonomie. Ce qui fait que les dispositifs qui vont être pensés vont être en décalage avec les besoins de la population française.
C'est-à-dire qu'on raisonne, c'est toujours la classification que vous évoquiez au début de l'émission, en termes d'âgisme, moins qu'en termes d'incapacité. On réfléchit aux causes. Le grand âge amènerait nécessairement la décrépitude et non pas à la réalité des invalidités qu'on peut connaître un peu à n'importe quel âge.
Exactement. Et quand, dans les années 60, on forge le troisième âge, au début des années 1970, on forge le quatrième âge, ça renvoie finalement à des catégories d'âge qui seraient celle de cette vieillesse verte, celle de vieillesse décrépite. Mais on ne réfléchit pas à, finalement, à une espérance de vie en meilleure forme de plus en plus longtemps. On ne réfléchit pas à des besoins de dépendance à n'importe quel âge.
Les besoins de dépendance, ils doivent être solutionnés. L'État pense, il a toujours pensé au rôle de la famille sans l'aider nécessairement beaucoup. L'État pense que les solutions doivent reposer largement sur ce qu'on appelle maintenant les aidants. Alors plutôt que de continuer à employer un vocabulaire bureaucratique, écoutons plutôt un extrait Emmanuel Riva avec Jean-Louis Trintignant du film Amour de Haneke. Un couple et elle vient d'être gagnée par la maladie d'Alzheimer.
Promets-moi une chose.
Quoi?
Je t'en prie, ne me ramène plus jamais à l'hôpital. Tu me le promets?
Anne.
Tu me le promets?
Anne.
Ne parle pas. N'explique rien. S'il te plaît.
Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Rien. Ne dis rien. Voilà. D'accord?
Tout va bien?
Tout va bien. Tu n'es pas obligée de me tenir la main tout le temps. Je suis capable de m'occuper toute seule, tu sais. Et n'aie pas mauvaise conscience. Ce serait absurde et pesant. Pour moi aussi.
Je n'ai pas mauvaise conscience.
C'est bien. Va là-bas maintenant. Je suis pas une handicapée. Tu peux très bien me laisser 2 minutes toute seule. Sans que je m'effondre.
D'accord.
Tu as acheté le nouveau livre sur Arnoncourt?
Je l'ai déjà lu.
Alors?
Tu le veux? Je te l'apporte?
Volontiers. Bon, maintenant occupe-toi de toi. Et ne reste pas là pour voir comment je tiens le livre. D'accord?
D'accord. Imagine que tu sois à ma place. Tu n'as jamais pensé que ça pourrait m'arriver à moi aussi?
Si, bien sûr. Mais l'imagination et la réalité ont peu de choses en commun.
Oui, mais ça s'améliore chaque jour.
Je ne veux plus. Tu fais des efforts touchants pour me faciliter tout ça, mais moi, je ne veux plus. Pour moi, pas pour toi.
Non, je ne te crois pas. Je te connais. Tu penses que tu es un poids pour moi. Mais si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais?
Je n'en sais rien. Je ne veux pas me casser la tête à ta place.
Difficile de parler après cela, Christophe Capuano. Vous disiez qu'il y a des personnages qui vous sautent à la gorge à travers les archives. Vous insistez sur le rôle invisible et le statut de plus en plus difficile des aidants, notamment des femmes invisibles. Tiendront-ils?
Oui, on voit ce rôle des débuts du XXe siècle. On voit bien sûr ce rôle de nos jours dans les archives, tout en continuellement sans avoir le soutien des pouvoirs publics. La question, effectivement, c'est l'épuisement de ces aidants. c'est le risque d'abandon, c'est des issues tragiques qu'on retrouve dans les archives. Les femmes sont invisibles et les hommes sont complètement démunis. Et ce que l'on constate, c'est que on constate dans les lorsqu'on regarde les archives, par exemple des années 1950-1960, des hommes qui n'ont pas été préparés à ce rôle d'aidant, parce qu'il y a une construction très genrée au sein du ménage, des tâches ménagères, eh bien sont complètement démunis et parfois cela mène au suicide, du couple ou de l'époux qui suicide l'épouse.
Archives du présent, je recommande la lecture d'un livre qui s'intitule « L'homme qui aimait les arbres » de Jean-Marie Borzex, l'ancien directeur de France Culture, c'est aux éditions Bleu Autour. Voilà un fils qui est démuni devant son père en maison de retraite, parce qu'ils ne sont pas habitués à beaucoup parler ensemble. Le père n'a jamais montré que de la rigueur et pas nécessairement de la tendresse. Et le fils doit apporter de la tendresse. Ce sont de très belles archives du présent que ce livre. Il se passe dans une maison de retraite de Bujat, sur le plateau de Mille Vaches, en Corrèze. La maison de retraite et l'hospice deviennent souvent des EHPAD, et là encore, archives du présent, on peut finir avec ça, l'avis très sévère du Comité national consultatif d'éthique qui a été rendu public la semaine dernière sur les établissements spécialisés.
Oui, la question que pose ce comité est une question qui est récurrente depuis la fin des années 70. Le manque de moyens donnés aux établissements, le manque de personnel. Si en France, en 2003, lors de la canicule, 64% des personnes âgées mortes lors de cette canicule sont mortes en institution, notamment en EHPAD, c'est en raison de ce manque de personnel. Les rapports qui ont été établis sur la situation du grand âge, sur la situation de la dépendance, sur le manque de soutien aux aidants, ces rapports pointe du doigt toujours les mêmes défaillances de la France et met en avant la nécessité de s'emparer de cette question comme une question politique. Ne pas penser d'abord le financement, mais d'abord penser la société que nous voulons pour demain. Et il y a des solutions en termes de financement.
Alors allez-y, parce qu'on vous attend bien sûr sur le thème de la, comment disent-ils, soutenabilité.
La soutenabilité, elle peut être pensée pour une dépendance lourde avec un système de mutuelle obligatoire encadré par l'État ou par un système de branche de sécurité sociale et avoir un système pour la dépendance plus légère qui serait en fonction des ressources des individus. Toute une série de dispositifs peuvent être adoptés.
Merci à vous, Christophe Capuano. Des pistes et puis surtout beaucoup d'informations historiques dans « Que faire des vieux ? Histoire de la protection sociale en France » aux presses de Sciences Po que vous venez de faire paraître la semaine dernière. L'émission a été réalisée par Valérie Aestaray avec à la technique Tristan Grattalo, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin pour la préparation.